Alors, la deuxième question, ben, je ne vais pas remonter le diaporama. En fait, il y a des choix qui sont faits dans ce texte qui sont très clairs. On a cru beaucoup de choses quand le débat sur la référence à la chrétienté dans le préambule a été abandonné, mais il est quand même dit que il y a quand même une référence à l'héritage religieux. Chacun peut en penser ce qu'il veut. Moi, je crois que la religion, le fait religieux a été pendant des siècles en Europe un facteur de déchirement, un facteur de guerre, un facteur de souffrance, et que sauf peut-être dans les effets que ça a pu avoir en matière architecturale et artistique, l'héritage religieux me paraît un héritage qu'on peut questionner. Cela étant, le mot laïcité n'est pas inscrit dans ce texte. Par contre, il est écrit que l'Union européenne entretient un dialogue ouvert, transparent et régulier, non pas avec les cultes, mais avec les églises. Ce qui, je ne sais pas si vous le savez, a puissamment réjoui la conférence épiscopale européenne, qui, voyant qu'on utilise un mot qui est propre à la catholicité, ecclésia, a trouvé que c'était une forme de reconnaissance implicite du rôle de l'Église catholique en Europe. Mais c'est peut-être pas ça qui est le plus important, mais c'est que la formulation « entretient un dialogue ouvert, transparent et régulier » est en fait la formulation qui a été utilisée en annexe du traité d'Amsterdam pour donner une base légale à la possibilité pour la Commission européenne de subventionner des associations ou des organisations proches d'un culte. Vous savez que c'est depuis lors que la Commission européenne subventionne l'Opus Dei. Et enfin, troisième chose, il est dit que l'Union respecte le droit des gens d'exprimer leurs opinions religieuses en public. Ce qui pose par rapport à la législation et à la Constitution française un certain nombre de problèmes. Je tiens à dire, c'est d'ailleurs ce qui affaiblit terriblement la Charte des droits fondamentaux, qu'à la demande des Britanniques, il y a une clause interprétative qui dit que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux ne peuvent pas contrarier la législation des États. C'est d'ailleurs ce sur quoi le Conseil constitutionnel français s'est appuyé pour dire qu'il n'y avait pas de danger pour la laïcité en France. Juridiquement, tout ça est impeccable. Mais rien ne nous dit que si, d'aventure, une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, invoquait cette liberté d'exprimer ses convictions en public dans la Charte des droits fondamentaux, devant une instance judiciaire européenne, en l'occurrence la Cour de justice des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, rien ne nous dit quelle serait l'interprétation que donnerait la Cour. J'ai d'ailleurs envie de vous dire à propos de cet exemple, mais ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, quand on voit que ce texte contient autant d'articles qui se contredisent, qu'on est en train de passer tout doucement d'un régime juridique à un autre. Quand Michel Barnier vient nous raconter à la télé que la France a joué un grand rôle dans la rédaction de ce texte, j'ai envie de dire la Grande-Bretagne au moins autant. Parce que qu'est-ce que je constate ? C'est qu'on va de plus en plus vers un régime qui s'apparente à celui de la common law, c'est-à-dire un régime juridique où la place de l'interprétation et de la jurisprudence est prédominante et qu'on s'écarte de plus en plus du droit continental. Je sais bien, en France, on parle de droit français, mais c'est le droit de tout le continent qui nous vient du droit romain, où la volonté était de faire des textes les plus précis possibles, de telle sorte d'éviter des interprétations contradictoires justifiant l'arbitrage. Il y a là une évolution, d'ailleurs, que je constate dans bien des textes européens. Bien des textes qui nous viennent de la Commission sont aujourd'hui des textes qui sont tout à fait prêts pour l'arbitrage et donc pour la jurisprudence de la Cour.